Bonjour à tous et bonjour Roland Gory.
Bonjour Thomas.
Merci beaucoup de me recevoir et d'avoir accepté de discuter avec moi. Donc Roland Gory, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es philosophe, psychanalyste, professeur émérite de psychologie et de psychopathologie clinique à l'université Aix-Marseille. Tu as écrit près d'une quinzaine d'ouvrages, tu publies régulièrement dans la presse écrite. Tu parcours la France entière pour donner des conférences et des interviews. Surtout, tu as participé à la création de l'Appel des Appels en 2008 avec Stéphane Chédry et tu viens de publier avec Bernard Luba et Charles Sylvestre le Manifeste des œuvriers chez Actes Sud. Alors Roland, je sais que tu n'aimes pas l'expression d'auteur engagé et que tu préfères celle utilisée par Camus d'auteur embarqué. Mais moi, je te considère depuis très longtemps tout simplement comme un combattant. Alors, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, décrire ton parcours pour que l'on comprenne l'origine de tes combats ? Et puis, dans un second temps, nous parlerons de ce combat avec plus de détails.
Eh bien, merci Thomas de cette proposition. Alors, que dire ? Au départ... Après des études secondaires tout à fait classiques, mais orientées du côté des mathématiques, du côté des sciences, et pas du tout du côté de la littérature, on va dire qu'une crise d'adolescence me conduit à laisser de côté cette conception très technique, scientifique et objective du monde, pour peut-être répondre à un appel un peu plus romantique si on poursuit cette opposition philosophique entre les connaissances qui se veulent scientifiques et qui tentent quand même à modéliser l'ensemble des formes de savoir sur le principe des sciences de la nature. On sait que le 19e siècle a été justement le siècle majeur à cet effet. Et puis la connaissance tragique, la connaissance romantique, c'est tout ce qui vient s'opposer à des processus de réification, de chosification, tout ce qui vient finalement heurter les exigences et les critères des différentes révolutions industrielles. Bon, alors je ne le savais pas à l'époque, parce que j'ai passé mon bac, je devais avoir 17 ans, donc je ne pouvais pas savoir à l'époque que j'avais choisi de quitter Mathélèbes pour aller en philo et passer à toute vitesse un bac philo. Bon, bref. Et à ce moment-là, toujours dans ce désir un peu d'émancipation, je fais un certain nombre de choses, comme des remplacements d'instituteurs, comme des remplacements de profs de collège. À l'époque, c'était possible. Il ne faut pas oublier que ma génération fait partie de ces privilégiés qui, finalement, avec le bac, pouvaient avoir accès à des postes et de cadres et à des fonctions tout à fait reconnues. Et être étudiant était déjà un statut social. Alors, sans m'étendre là-dessus, disons qu'après, là encore, je vais me retrouver là où je ne me suis pas cherché, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé faire de l'histoire, des lettres modernes, des choses comme ça, et ma mère rêvait que je fasse médecine, bien sûr, et mon père voulait que je fasse une école d'ingénieur, et je me retrouve en psycho. C'est-à-dire, là encore, pas du tout un endroit où je pensais un jour me trouver. C'est d'ailleurs la psychologie expérimentale et la psychologie scientifique qui m'intéressent, pour aller très vite encore, et pas du tout la psychopathologie, pas du tout la psychanalyse, et je suis plutôt tourné, là encore, vers le modèle expérimental d'approche scientifique des comportements. Et d'ailleurs, je monte à Paris recommandé par le patron des neurosciences de l'époque qui me dit que j'avais des mâchoires de chercheur et qu'il fallait absolument que je fasse des études supérieures, une thèse, une thèse en neurosciences. Et là, je dérape, là encore, une fois de plus, et je me retrouve en psychopatho, je fais de la psychopatho. Et j'abandonne définitivement ce rêve et ces illusions liées à la neurophysiologie des comportements. Je me retrouve très jeune dans un hôpital psychiatrique, en poste plein temps. Bon, comme à l'époque, il y avait par exemple 13 postes ouverts et vacants en Corse, que je refusais. Donc c'est dire un petit peu qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un demi-poste vacant à l'hôpital, il y a 200 candidatures. Là, il y avait 13 postes vacants en Corse, absolument pas pourvus, ni à Marseille d'ailleurs, où les gens ne venaient pas. Bon, bref, il manquait énormément, pourrait-on dire, de professionnels. Et je me retrouve dans un poste un peu bizarroïde d'ailleurs, d'un hôpital semi-privé, semi-public à Châteauroux, où il y avait donc une possibilité de carrière. Je devais être sur un truc du style poste de pharmacien à 60% de temps, ou d'infirmier supérieur à 80%, je ne sais plus, mais enfin, c'est un truc tout à fait. Les psychologues n'existaient pas, ils n'avaient pas vraiment de statut, et je me retrouve dans une position.
Donc, pardon de t'interrompre, mais juste pour qu'on rappelle un petit peu. Donc là, on est dans les années 70.
Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors là, pour faire simple et pour faire vite, moi j'ai 23 ans à cette époque-là, et je reçois des tas de patients auxquels je fais passer des tas d'examens pour leur donner une espèce de bilan psychométrique de compétences cognitives et de traits de personnalité, bon, qui débouche rien. Parce que bien évidemment, une fois qu'on a transmis ça, ça fait partie des examens complémentaires, ça fait partie du dossier de synthèse du patient. La synthèse du patient n'est un mot que la synthèse du morcellement et la fragmentation qu'il a subi des différentes approches, pour aller vite, entre l'analyse biologique des urines et puis à l'époque les clichés radiologiques du cerveau ou les EG, puisqu'il n'y avait pas encore d'IRM bien sûr. Et ces patients, eh ben, ils viennent me voir. Ils viennent me voir parce que je les ai reçus dans une posture de sachant quelque chose sur leur désir pour aller vite. Et donc, ils développent quelque chose de l'ordre du transfert qui m'affole totalement parce que non seulement je suis tout jeune, mais en plus, je suis complètement incapable, incompétent et pas du tout formé à recevoir une demande qui, comme toute demande, est quand même très fortement saturée en affect d'amour et de haine aussi. Et donc, je vais m'inscrire en thèse. Je m'inscris en thèse à Nanterre et je vais voir Didier Anzieux pour lui dire qu'il faut absolument que je trouve quelqu'un qui m'aide un peu parce que j'y comprends rien. Il m'envoie chez une psychanalyste, laquelle, après avoir accepté pendant un an de contrôler mon travail, j'ai commencé un contrôle avant de commencer une psychanalyse, c'est quand même un peu paradoxal, m'a dit qu'en gros il valait mieux que je m'allonge et qu'on passe à autre chose. C'est-à-dire que donc là je fais une démarche un peu personnelle. Et je fais une première thèse, je vais vite terminer sur les aspects personnels, mais je fais une première thèse qui s'appelle « Analyse en cluster du matériel verbal des groupes thérapeutiques d'alcooliques ». Donc on est encore dans l'illusion objectivante. Ceci étant, pour dire que moi ça ne m'impressionne absolument pas aujourd'hui, les neurosciences, ça ne m'impressionne absolument pas l'analyse automatique des discours, je trouve ça tout à fait passionnant. Et moi, j'ai toujours estimé ces modèles-là. J'ai jamais rejeté. Et encore une fois, j'étais passionné de statistiques, j'étais passionné d'analyse comportementale. Ce qui me frappe aujourd'hui, c'est que ça s'est idéologisé au point de venir constituer un savoir supplétif et prenant le relais des savoirs classiquement référés à la psychanalyse ou au marxisme. Alors, donc ma thèse est tout à fait, encore une fois, de type, on va dire, objectivant, ce qu'aujourd'hui on appellerait la psychologie clinique intégrative, ou des choses comme ça, sauf que, bien sûr, ça ne m'apporte pas un chouïa de compétences sur la capacité à entendre les patients, à les accompagner, à les aider, en quelque sorte à les soigner, disons les choses très simplement. Et je me retrouve assistant donc à l'université d'Aix-Marseille en psychologie clinique, où là, mon analyse bougeant un peu, je m'aperçois que la parole n'est pas simplement appréhendable en termes de comportement verbal, en termes de discours qu'on peut analyser de manière taxonomique, distributionnelle, mais que la parole a aussi une fonction, qui est une fonction, je dirais, sexuelle au sens fort du terme, c'est-à-dire que la parole est un acte pulsionnel qui mobilise des pulsions sexuelles ou des pulsions agressives, des pulsions de destruction, et que par la parole on touche, par la parole on voit, par la parole on séduit, par la parole on engrosse, par la parole on meurtrit, par la parole on blesse. Et donc je vais m'orienter à ce moment-là vers tous les travaux de Donald Winnicott avant qu'il soit vraiment connu en France d'ailleurs. Il y avait Gérard Mandel qui le connaissait un petit peu, pour aller vite. Et je fais ma deuxième grande thèse, ce qu'on appelait la grande thèse pour passer professeur, sur recherche clinique et psychanalytique, sur l'acte de parole, et donc en insistant beaucoup, grâce d'ailleurs aussi à Didier Anzieu, hein, sur cette double allégeance du discours, à la fois au corps, pour faire vite, au corps pulsionnel, hein, à l'anatomie érotique, et d'autre part, aux exigences normatives du code, notamment du code linguistique et sémantique, pour aller vite. Bon. Je vais être très jeune professeur d'université. Je vais monter un laboratoire de recherche de psychologie clinique à Montpellier. Bon, j'ai 35 ans, hein, avec des assistants qui ont 10 ou 20 ans de plus que moi. Hein, j'essaie d'inscrire une dimension psychanalytique dans l'enseignement, dans la recherche, parce que je pense que les psychologues, comme les psychiatres, ben finalement, ils ont affaire à quelque chose qui est l'accueil et le traitement de la souffrance psychique, et j'ajouterai aujourd'hui sociale, des sujets qui s'adressent à eux, ce qui n'exclut pas, bien sûr, des approches qui sont plus organiques, des approches qui sont plus objectivantes. J'ai toujours été pour la biodiversité des savoirs, la biodiversité épistémologique. Et, bon. Alors, là, je vais défendre pendant plusieurs années ce référentiel psychanalytique dans les formations de psychologues, mais moi, je ne suis pas très corporatiste, donc je pense que ce référentiel psychanalytique, il est aussi essentiel pour les psychiatres, sauf s'ils se transforment en médecins vétérinaires des malades mentaux, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, hein, pour aller vite, que c'est aussi un référentiel essentiel pour les travailleurs sociaux, parce que au-delà de la misère matérielle, il y a dans les populations que prennent en charge les travailleurs sociaux une misère symbolique, une misère subjective. Et donc, je crée, on est dans les années 80, je crée un centre interrégional de recherche en psychopathologie clinique regroupant les universités d'Aix-Marseille 1, Aix-Marseille 2, la médecine, Nice, la psycho et la médecine, Montpellier 3, la psycho, Montpellier 1, la médecine. Bon, et donc j'essaie de promouvoir à ce moment-là ce référentiel psychanalytique dans les recherches, les enseignements et les pratiques des psys et des travailleurs sociaux. Donc, du coup, je suis responsable de la première formation doctorale de psychopathologie clinique, ouverte à la fois et aux psychologues et aux psychiatres. Ça, c'était un scoop. Et puis arrivent les années 90, où nous sommes devenus américains, comme disait Régis Doré. Hein. Nous sommes devenus américains, l'évaluation est devenue américaine, avec des critères essentiellement productivistes, utilitaristes, et puis conformes à l'idéologie du DSM, du manuel de diagnostic statistique des troubles mentaux, du DSM-3 notamment, qui finalement se voulait athéorique et qui est uniquement une arme de combat contre la psychopathologie clinique, puisque c'est une psychiatrie qui est multidimensionnelle et qui ne repose pas sur des catégories cliniques, mais qui repose sur des traits statistiques du comportement permettant d'apparier le profil psychométrique, on va dire, d'un patient avec l'air de famille qu'il peut entretenir avec des personnalités malades. C'est-à-dire, pour faire simple, non pas savoir ce que peut signifier le symptôme de quelqu'un par rapport à son histoire personnelle, son histoire sociale ou culturelle, mais simplement son schéma comportemental. Donc le sujet est réduit à la somme de ses comportements passés, quoi. On peut dire que quand les années 90 arrivent, déjà les psychiatres vont me lâcher au niveau du centre de recherche pour la bonne raison que les humanités et les DEA et doctorats que nous pouvions donner en psychopathologie appartenaient aux humanités qui n'avaient plus la cote dans les facs de médecine, puisque les publications devaient obéir déjà à l'ordonnancement proposé par le current contents, par les impact factors et autres. Et donc, alors que j'ai eu des gens qui sont des patrons de psychiatrie aujourd'hui à Marseille, bon, entre parenthèses, c'est des nullités, mais c'est un autre problème, on ne mettra pas. Bon, qui ont fait leur thèse de psychopatho, avec moi, par exemple, ça a été terminé. C'est-à-dire que donc on a déjà perdu tout le soutien à la psychiatrie, qui va d'ailleurs progressivement se normaliser, puisque comme tu sais, il n'y a plus aucun professeur de psychiatrie qui se réfère à la psychanalyse en psychiatrie adulte. On voit bien comment il y a une espèce de conversion, qui à mon avis une conversion culturelle plus scientifique, une conversion idéologique plus que fondée sur des événements scientifiques. C'est ce point qui me paraît majeur. Parce que, comme je le dis très souvent, la psychanalyse a toujours été jugée pour de mauvaises raisons idéologiques. Elle a été promue et propulsée en avant au temps d'un capitalisme industriel qui faisait alliance avec une conception du modèle psychologique conçu comme étant l'homme est responsable de lui-même, il doit être un entrepreneur de lui-même, et donc il est responsable de ce qui lui arrive. Bon, la psychanalyse, ça marchait tout à fait là. Mais après, je dirais que le néolibéralisme a eu mieux que l'homo psychologicus, et s'est tourné vers une espèce d'homme neuro-économique, comme nous disions avec Marie-Jeanine Delvolgo dans notre livre « Exilé de l'intime et dans la santé totalitaire ». Donc, pour faire vite et pour faire simple, j'ai vu arriver cette bande d'experts dont je dirais très franchement, ça tu peux même l'écrire, que ce qui me frappait c'était la médiocrité de leur qualité intellectuelle, voire de leur production scientifique. Et ils obéissaient parfaitement aux critères formels qu'ils tentaient de nous imposer, qui étaient parfaitement compliants avec les exigences des revues dites internationales, ce qui veut dire états-uniennes, mais qui, dans le fond, franchement, ne me faisaient pas penser. Et ça, c'est un point qui, pour moi, est très important. Et j'ai découvert depuis que dans de nombreux domaines, les articles scientifiques ne sont pas là pour être lus, mais ils sont là pour être publiés. Effectivement, ces collègues qui étaient nos experts, qui sont venus finalement détruire tout ce que des gens comme Laplanche, Caes et moi nous avions mis en place, finalement étaient simplement des conformistes qui étaient tout à fait, qui avaient la personnalité autoritaire, comme dirait Adorno, tout à fait ad hoc à promouvoir une nouvelle manière de voir le monde et de voir le sujet humain, qui n'est rien d'autre qu'une américanisation du monde, qui a d'ailleurs commencé dès la fin du XIXe siècle et qui n'a fait que s'amplifier, comme on le sait, avec la mondialisation et avec la pulvérisation de la bipolarité idéologique des forces politiques. Alors, quand j'ai eu droit, comme Laplanche, comme Caes, quand j'ai eu droit à, je dirais, cette vague d'experts dont on se demandait bien d'où elle nous tombait, je dirais, pour faire vite et pour faire simple, je me suis un peu intéressé à l'épistémologie. Alors, comme c'est l'époque aussi où j'ai rencontré Marie-Jeanine Delvolgo, qui est devenue ma femme, on a fait un peu d'épistémologie, puisqu'elle a une formation médicale, elle a une thèse en neurosciences, et elle est venue faire de la psychopatho, parce que justement, il manquait quelque chose dans sa formation de médecin, dans sa formation de neuroscientifique, et qu'elle cherchait du côté de la psychopatho, ce qui me paraît intéressant, puisque c'est à partir de ce reste que se constitue une œuvre, justement. Donc c'est un peu, ça va toujours dans le sens de ce que j'ai toujours vanté, de l'éloge de l'hétérogène, de ce qui vient faire objection, obstacle au totalitarisme de n'importe quelle forme de savoir, parce qu'il y a eu aussi des ayatollahs de la psychanalyse, pas seulement lacanienne d'ailleurs, il y avait des ayatollahs aussi de la psychanalyse, de l'hypéiste et autres. Donc c'est très important qu'il y ait toujours quelque part quelque chose qui résiste à la totalisation du savoir et à une vision tyrannique du monde. Alors là, je me suis intéressé à l'épistémologie, et la question que j'ai posée et dont on trouve trace dans un certain nombre de mes articles et de mes ouvrages de l'époque, c'est finalement cette question de savoir à quelles conditions un énoncé peut-il se prétendre scientifique, c'est-à-dire transmettre un fragment de vérité produite par une méthode. Donc là, on a fait un certain nombre de travaux, bouquins et autres, la santé totalitaire, etc., sur justement cette nécessité à la fois de traiter biomédicalement, bien sûr, la maladie, sans négliger l'inscription subjective qu'elle produit chez un sujet donné en fonction de son histoire et la manière dont il va psychiquement métaboliser ce qui lui arrive. Et donc, effectivement, il est important à la fois de soigner le malade et de traiter la maladie. Mmh. Donc, les deux sont importants, sans chercher forcément à raisonner en termes de causalité. Parce qu'il n'y a rien de pire que la causalité, qui, de mon point de vue, ça fait 30 ans que je le dis, est un vestige du discours religieux. Et chercher la cause, comme on va chercher le Père. Donc, alors, là, j'ai beaucoup travaillé sur cette question de l'idéologie, bon, surtout que j'avais quand même, de ma tendre jeunesse, une petite formation marxiste quand même, et donc, effectivement, concevoir l'idéologie comme l'illusion que l'on se donne pour donner un sens et une cohérence à ce qui nous arrive, c'est-à-dire comme une description pseudo-scientifique de la réalité qui en fait est pourtant tout simplement, je dirais, le produit d'une exigence sociale ou d'une nécessité subjective. C'est là où je me différencie un peu de Marx, puisque moi, je mets du sujet là où il met simplement les forces productives pour aller très vite. Alors, donc ça, c'est toute une période de réflexion, de travail, dénonçant aussi l'idéologisation de la psychanalyse, parce qu'il y a une idéologie psychanalytique. J'ai beaucoup travaillé et pour finalement m'apercevoir qu'il y a aussi dans nos savoirs, qu'ils soient médicaux ou qu'ils soient psychologiques, des fonctions normatives. Donc ça ne t'étonnera pas qu'à ce moment-là, je me tourne plutôt du côté de Foucault, je me tourne plutôt du côté de Bourdieu, les deux penseurs qui ont mauvaise presse aujourd'hui, comme tu sais. Bon. J'ai toujours aussi un peu créé, je ne sais pas si c'est suffisant ce que je raconte, mais pour moi, il y a toujours eu un peu un trépied entre mes pratiques cliniques, sociales, etc., mes centres d'intérêt théoriques à un moment donné, Et puis finalement des créations institutionnelles, des œuvres institutionnelles, ou des œuvres d'ailleurs d'écriture, mais pour moi, l'institution aussi, la matérialisation d'une écriture dans la réalité sociale, notamment. Et donc, on avait créé avec Pierre Félida, au début des années 2000, le séminaire interuniversitaire de psychopathologie et de psychanalyse, donc qui visait un peu à regrouper l'ensemble des universitaires qui se référaient encore à ce savoir qui était en train de tomber en désuétude, qui est la psychanalyse et la psychopathologie, par exemple, phénoménologique. Et donc, on arrive dans les années 2000 où il y a une espèce de mobilisation pour contrer un peu cette espèce d'américanisation des disciplines qui est en train de se mettre en place à l'université. Et comme j'ai des responsabilités aussi universitaires, notamment nationales, voire internationales, il y a aussi toute une réflexion sur l'enseignement, sur la recherche, sur les critères, sur les publications. Et je crois que pendant, on va dire, pour faire vite, une bonne dizaine d'années, on arrive quand même à faire entendre aux responsables politiques et institutionnels la possibilité d'une coexistence des différentes formes de savoir. Donc, ça y est, c'est une partie où il y a eu pas mal de possibilités. Ce qui me frappe à ce moment-là, notamment avec les deux bouquins publié avec Marie-Josée Dalvolgo, donc La santé totalitaire et Exil de l'intime, c'est que lorsque je vais les présenter à des praticiens qui sont intéressés par cet ouvrage, ce ne sont pas simplement des psychos, ce ne sont pas simplement des psychanalystes, ce ne sont pas simplement des psychiatres, il y a aussi des dermatologues, il y a aussi des pédiatres, il y a aussi des cancérologues, mais il y a aussi des magistrats, mais il y a aussi des travailleurs sociaux, mais il y a aussi des enseignants. Et là, ce qui me frappe, c'est que cette conformisation à l'américaine, états-unienne, parce que l'Amérique latine, c'est pas ça, cette conformisation, cette recomposition des savoirs et des pratiques sur des modèles essentiellement quantitatifs et procéduraux, réduisant la valeur justement à la conformité ou réduisant la valeur au prix, est en train de se mettre en place partout et impacte très douloureusement nombre de pratiques professionnelles. C'est aussi l'époque où il y a l'expertise INSERM sur les jeunes enfants de moins de 3 ans atteints du syndrome de l'hyperactivité.
C'est que cet événement qui a été tellement marquant, qui a à peine 10 ans, à peine plus que 10 ans, qui a été tellement marquant dans ton parcours, mais aussi dans la vie intellectuelle, pour faire vite, des chercheurs de gauche, comme s'il n'avait jamais existé, on n'en entend plus jamais parler, alors que ça avait été un pavé dans la mare absolument terrifiant.
Oui, ben, ce qui est frappant, par exemple, c'est que juste 2 ans avant, 2003, 2004, il faudra vérifier les dates, hein, en 2003-2004, Le Monde m'interviewe, c'est Cécile Prière d'ailleurs du Monde, qui m'interviewe sur l'expertise INSERM, comparant les différentes thérapies cognitives, systémiques et psychanalytiques, et conduisant à, on va dire, l'invalidation de l'approche psychanalytique au profit de l'approche cognitive. Bon. C'est la première page. J'ai une interview dans la première page qui est annoncée. Cécile Brière me demande « Qu'est-ce que vous inspire cette recherche ?» Je réponds « Du dégoût » et première page, on renvoie à un texte d'un interview qu'elle a pu faire avec moi, où j'ai dit que méthodologiquement ça tenait pas la route, parce que de toute façon, là encore, ils n'ont fait que s'auto-valider, que s'auto-légitimer, en montrant finalement la cohérence qu'il y avait avec des revues de style très formaliste et très comportementaliste, et puis des pratiques thérapeutiques TCC, c'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on montre tous, et ça, il faudrait vraiment, d'ailleurs, qu'il y ait une recherche là-dessus, c'est en quelque sorte l'intervalidation, non pas des approches, mais l'intervalidation des impensés cognitifs et idéologiques des savoirs et des pratiques. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en gros, les revues ne publient plus des textes psychanalytiques, mais ne publient que des travaux de recherche se référant au comportementalisme, au cognitivo-comportementalisme, c'est un peu différent d'ailleurs, ou bien aux médicaments, ou bien à l'épidémiologie sociale. Bon, et donc ces revues s'appuient également sur la promotion idéologique et commerciale du DSM-3 et du DSM-4, à l'époque c'était le DSM-3. Donc, il faut se référer au DSM-3 pour être publié par ces revues. Donc il y a une espèce d'intervalidation de ces trucs, de ces approches. Mmh. Et ensuite, il y a une approche INSERM qui, bien entendu, par des méta-analyses, ne va se référer qu'à la littérature scientifique, c'est-à-dire à celle qui se réfère au DSM et à l'approche cognitive ou pharmacologique. Mmh. Donc en gros, ce que toutes ces validations montrent, ce sont des réseaux d'alliances, d'alliances idéologiques ou d'alliances sociales et institutionnelles. Et on fait comme si cet accord interjuge, qui est d'ailleurs interne à cette approche-là, on y reviendra, cet accord interjuge valait pour vérité scientifique. Et c'est la plus grosse escroquerie du siècle qui permet d'américaniser les manières de penser.
Et qui en fait se retrouve dans plein d'autres champs. C'est ce que tu disais juste avant. Hein. Ça s'est retrouvé dans beaucoup d'autres champs du social, champs, du travail.
Et c'est pas par hasard si effectivement le mouvement panne zéro de conduite est parti de pédiatres, de PMI. Alors ensuite, c'était Pierre Schweisser, Christine Bellas-Cabanne, etc., Marie-Laure Cadard et autres, même si ensuite il y a des psys comme Claude Chauder ou comme Sylviane Jean-Pinault ou moi, etc., ou Pierre Delion, qui se sont accrochés au mouvement, il est parti de pédiatres qui trouvaient scandaleux de stigmatiser les enfants au point de considérer que à moins de 3 ans, parce que la cible c'était 2 ans, leur trouble du comportement était anticipateur des troubles à l'adolescence, des troubles de délinquance. Alors, à l'époque, on disait que c'était Sarkozy, puisque Sarkozy avait déclaré dans le journal des dernières nouvelles d'Alsace qu'il faudra s'appuyer sur l'expertise INSERM pour établir la loi de prévention de la délinquance. Donc, effectivement, bon, et il y a eu là
Excuse-moi, je veux juste qu'on insiste sur ce point pour que ce soit très clair pour tout le monde. Pas que ce soit trop effacé dans le flot de notre conversation, que toute l'idée de cette expertise INSERM, c'était de dire qu'on pouvait dépister les comportements délinquants chez des enfants de moins de 3 ans.
Oui, moins de 3 ans, les troubles de conduite des enfants de moins de 3 ans, et la cible majeure qui s'appuyait notamment sur les recherches d'un psychologue canadien, Tremblay, qui s'appelait Tremblay, qui avait fait La violence de l'agneau, un film, et qui avait réussi un temps au Canada à imposer un peu sa manière de penser, laquelle est d'ailleurs remise en question, mais comme d'autres choses, comme la méthode ABA, par exemple, qui est pour l'autisme. Il y a eu comme ça toute une exportation d'Amérique du Nord vers l'Europe, au moment même où, à l'Amérique du Nord, certaines voix étaient discordantes par rapport à cette idéologie dominante, quoi. Là, l'idée quand même qui était énorme, c'est qu'on pouvait considérer que les comportements violents ou agités des enfants de 2 ans étaient en quelque sorte presque pathognomoniques d'un devenir délinquant à l'adolescence. Donc là, vraiment, sur un plan à la fois épistémologique, sur un plan social, politique et psychologique, ça veut dire que l'avenir ne peut être rien d'autre que le reflet du passé.
On en revient au problème de la causalité dont tu parlais à l'instant.
On en revient au problème de la causalité et on en revient politiquement et socialement à la mise en cause de ce qui avait pu constituer l'excuse de minorité après la guerre, qui était de considérer que, avec après tout ce qui s'était passé de massacres humains, on pouvait considérer que ce qui restait de jeunesse, même de jeunesse dévoyée, même de jeunesse sans étoile, pour reprendre le titre d'un livre des Sean qui à l'époque avait été important, il fallait cette jeunesse inadaptée, c'est l'époque institutionnellement de la création des services de jeunesse inadaptée, il fallait la soigner, il fallait la rééduquer, il fallait l'accompagner, mais elle n'était pas foutue. Alors que là, d'entrée, on peut dire que on est dans la fatalité sociale et la fatalité subjective qui fait qu'on a tout intérêt à renoncer, à les transformer, même si on doit les coacher, même si on doit les gérer, parce que le néolibéralisme encadre les comportements et ne les laisse pas, bien sûr, en plan, mais sans possibilité de les modifier, ne croit pas à une modification interne. Là, on est, je l'ai souvent dit, en opposition avec, par exemple, avec l'humanisme d'un Jaurès. Quand Jaurès dit, par exemple, qu'est-ce que l'humanité ? L'humanité, c'est pas une transcendance, l'humanité, c'est pas un individu, l'humanité, c'est la part qui existe en chacun de nous et qui fait refuser la fatalité biologique et économique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de biologie. Moi, je pense qu'il y a une infrastructure biologique de tous les comportements, les choses sont très claires. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'infrastructure économique, mais ça veut dire qu'il y a dans l'humanisme quelque chose qui est que nous devons, pour restituer l'humanité de l'homme, considérer que nous résisterons à cette fatalité-là. Ce que je trouve dans la phrase de Camus, que je trouve extraordinaire, créer, c'est donner une forme à son destin. Il y a moyen de transgresser en quelque sorte les normes, qu'elles soient biologiques ou qu'elles soient socio-économiques. Ça a été très important, et peut-être que là, c'est là où est née pour moi, à mon insu sûrement, mais l'idée de l'appel des appels. Puisque alors, allez, c'est l'époque Sarkozy, c'était clair, on avait un adversaire. C'était une époque géniale, parce qu'ensuite l'adversaire s'est tellement dilué qu'aujourd'hui il revient même travesti et masqué. Bon. Et donc, à cette époque-là, on avait un adversaire, c'était clair, et il y a eu des tas de sauvons la clinique, sauvons la recherche, sauvons l'hôpital, la nuit sécuritaire, sauvons les RASED, enfin bref, il y a eu tellement de mouvements s'opposant aux réformes sarkozystes qui étaient tellement obscènes que c'était extraordinaire, puisqu'on avait un adversaire qui assumait justement sa vision du monde, qui assumait son américanisation. Il ne l'avait pas que sur le t-shirt, il l'avait dans la tête et il l'avait dans la promotion de ses réformes qu'il n'a pas certainement pu mener jusqu'au bout, contrairement à d'autres. Bon. Alors, Et je crois, pour faire vite et pour faire simple, que là, face à cette multiplication des mouvements qui visaient à sauver l'humain dans les différents savoirs et les différentes pratiques, eh ben, avec Stéphane Chédry, nous avons lancé à la fin 2008, décembre 2008, janvier 2009, l'appel des appels, cette idée qu'il fallait un passeur qui pouvait être l'appel des appels, fédérant ou permettant en tout cas que ces différentes pétitions puissent constituer un mouvement fort. Bon, on a échoué là-dessus, on n'a pas fédéré du tout. Il y a un nationalisme des collectifs qui est intéressant, parce que on voit bien que le narcissisme n'est-ce pas, existe à gauche comme à droite.
On en reparlera si tu veux bien.
Voilà. Et voilà, et donc on a lancé l'appel des appels qui a obtenu 90 000 signatures, qui a fait la une de Libération, avec une diffusion médiatique extraordinaire, aussi bien télévisuelle, radiophonique, la presse écrite et autres, la tentative de créer des comités locaux, mais enfin voilà. Donc si tu veux, pour peut-être clore sur mon discours, moi finalement j'ai essayé de faire mon boulot comme j'ai pu, que ce soit mon boulot, je dirais, de psy à l'hôpital, que ce soit mon boulot ensuite de psy, psychothérapeute, psychanalyste, que ce soit mon boulot d'universitaire, puis de responsable universitaire. Et donc, j'ai trouvé la politique comme étant... je ne l'ai pas cherché, quoi. C'est elle qui m'a trouvé, puisque je me suis aperçu qu'en gros, la réfutation des discours ou des pratiques étaient moins liés à des événements scientifiques marquants que à, on va dire, des hégémonies culturelles, que à des affinités idéologiques. Et donc, j'ai fait partie d'une génération où la psychanalyse a été portée au pinacle, où les neurosciences étaient méprisées, où le comportementalisme était méprisé, et pour de mauvaises raisons. Comme à mon avis aujourd'hui, elles sont surévaluées pour de mauvaises raisons. C'est des raisons toujours idéologiques, ce qui ne leur enlève pas leur valeur de recherche, leur valeur de résultat, et ce d'autant plus qu'elles sont tout à fait aujourd'hui portées par deux choses qui pour moi sont dominantes. C'est d'une part, je dirais, le progrès technique qui est considérable, et donc effectivement l'imagerie fonctionnelle du cerveau peut permettre aujourd'hui d'établir des tas de corrélations, hein. Il y a une petite lumière qui s'allume dans le cerveau, c'est l'idée de Dieu, hein. Donc Dieu existe, je l'ai localisé dans le cerveau, hein. La conscience de soi et le contrôle symboïque, je vais le localiser dans le cortex orbitofrontal, les affects, je vais pouvoir les localiser dans le noyau amygdalien, bref. Donc cette technique est quelque chose qui est fascinant, et certainement que, comme toute fascination, elle a à la fois une part réelle de révélation et une part obscure de séduction abusive. Et d'autre part, bien sûr, c'est porté par le marché, puisque en quelque sorte, quelle est la conception anthropologique du sujet humain ? C'est finalement un travailleur idéal, dépourvu de toute histoire, dépourvu de toute mémoire, dépourvu de toute subjectivité, et qui fonctionne. Et bien effectivement, qui fonctionne, ça veut dire qu'on va se fixer sur le comportement, pas du tout sur ce qu'éprouve quelqu'un, pas du tout sur ce qu'il pense, pas du tout sur son rapport à l'histoire singulière ou sociale qui est la sienne, mais simplement à son comportement fonctionnel, c'est-à-dire, effectivement, on est dans une évaluation des machines.